Radio Prague, les informations.
L'OTAN approuve la création d'un centre d'entraînement aérien en République tchèque. Corruption, le député David Rath dépose une plainte auprès de la Cour constitutionnelle. Accident ferroviaire dans la région de Mělník. L'OTAN a approuvé la création d'un centre d'entraînement aérien en République tchèque lors de son sommet qui s'est tenu ces dimanches et lundi à Chicago. Ce projet préparé par la République tchèque en collaboration avec la Croatie prévoit la formation commune de pilotes d'hélicoptères et d'équipages au sol. La formation sera également axée sur la préparation de conseillers en aviation de l'OTAN qui seront ensuite chargés d'assurer la formation des forces afghanes. La base de ce centre d'entraînement se trouvera à Pardubice, Bohème de l'Est, où s'entraînent déjà des pilotes afghans et américains. Le député et ancien président de la région de Bohême centrale, David Rath, a déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle ce lundi. Cette plainte est relative aux décisions prises durant l'enquête et à son incarcération. Arrêté en début de semaine dernière dans une vaste affaire de corruption, David Rath risque jusqu'à 12 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il a été arrêté en possession d'une boîte qui venait de lui être remise et dans laquelle se trouvaient 7 millions de couronnes. 7 autres personnes ont également été arrêtées. Ce mercredi, les agriculteurs de Moravie ralentiront la circulation sur les routes à 16 endroits de leur région. Ils utiliseront presque 150 machines et véhicules agricoles pour gêner la circulation, mais ils ne désirent pas la bloquer complètement. Ils envisagent de distribuer parmi les conducteurs des tracts et leur donner des informations sur les objectifs de leur action. Ils protestent de cette façon contre la réforme fiscale et la politique agricole du gouvernement du Premier ministre Petr Nečas. Un train a déraillé à Libiechov dans la région de la ville de Mělník. Il s'agissait d'un train qui transportait du charbon. L'accident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Le train a endommagé aussi plusieurs kilomètres de voies ferrées. Personne n'a été blessé. Les dégâts sont évalués cependant à 110 millions de couronnes, quelque 4,4 millions d'euros. La circulation sur les rails n'a repris que ce lundi à 15h. La réalisatrice Agnieszka Holland a terminé le tournage du film télévisé « Le buisson ardent » sur la vie de Jan Palach, étudiant pragois qui s'était immolé en 1969 par le feu pour mobiliser la société tchèque contre l'occupant soviétique. Le film évoque aussi les vies des proches de Jan Palach et la situation dans le pays au début de la période entrée dans l'histoire sous le nom de « normalisation ». La première du film aura lieu l'année prochaine. Météo. Après un week-end très ensoleillé, le temps a été nuageux et chaud ce lundi, jour de la fête des Monica, Monique. Les températures ont varié entre 24 et 28 degrés pour les maximales. Mardi, le ciel en Tchéquie sera d'abord variable, puis nuageux à couvert avec des averses et des orages. Les températures maximales se situeront entre 21 et 25 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Préparé et présenté par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. En marge de l'agitation de la scène politique tchèque, nous parlerons aujourd'hui du Parti communiste, un parti d'opposition depuis la révolution de velours et qui continue de recueillir des suffrages importants lors de scrutins électoraux. Un parti qui ne s'est toutefois jamais réformé après 1989. Les membres du parti élisaient ce week-end leur leader. Une élection sans surprise, comme nous le verrons. Et puis retour à la foire du livre de Prague, où notamment la bande dessinée était à l'honneur. La foire du livre s'est achevé dimanche. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, sans grande surprise, le juriste et ancien vice-président de la Chambre des députés, Wojciech Filip, 55 ans, a été reconduit samedi à la tête du Parti communiste tchèque et morave avec 60% des voix. Une élection plus serrée que prévue puisque 2 tours ont été nécessaires au maintien de celui que l'on nomme depuis son accession à la présidence du parti en 2005, le cadre. Pour parler de cette élection, le politologue Michel Perotino de l'Institut des relations internationales de la Faculté des sciences sociales à l'Université Charles et Léo Seyfres à Prague était l'invité de Paul Bauer.
Michel Perotino, bonjour, merci de répondre à nos questions pour Radio Prague. Le congrès du Parti communiste a reconduit Wojciech Filip avec 60% des voix. Comment est-ce que vous comprenez cette réélection, qui a eu lieu d'ailleurs au second tour contre toute attente?
Alors effectivement, c'est plus le fait qu'il ait dû revenir au deuxième tour qui est surprenant que sa réélection en elle-même. Je pense que tout le monde était d'accord sur l'idée que il n'y avait pas vraiment de contre-candidat de taille pour le concurrencer. Donc sa réélection était prévue à l'origine.
Quel courant il représente au sein du Parti communiste tchécoslovaque, sachant qu'en son sein, il y a différents courants, des plus radicaux, représentés par Grospič, jusqu'aux modérés, représentés par Jiří Dolejš. Qui l'a emporté finalement? Est-ce que Wojciech Filip est un candidat consensuel?
Peut-être consensuel, plus à mon avis, c'est plus à mon avis l'idée d'un candidat sans véritable concurrence. Wojciech Filip, en fait, est surtout un pragmatique qui s'est installé à la tête du parti depuis déjà quelques années. Et il est aussi, il puise aussi beaucoup de sa légitimité dans son activité de parlementaire. Il a été vice-président du Parlement. Donc il a déjà, si vous voulez, une bonne assise, une bonne bouteille. Et il n'y a pas vraiment de contre-candidat à l'heure actuelle, en tout cas au sein du parti. En matière de tendance ou de courant, c'est pas vraiment des courants, c'est moins formalisé, donc ce sont plus des tendances ou des courants non formalisés au sein du parti.
Et lui représenterait plutôt quel type de couleur au sein de ce parti?
Il est plutôt modéré. Il fait plutôt partie des modérés pragmatiques, c'est-à-dire ni véritablement réformateur entre guillemets, ni conservateur.
Il serait plutôt favorable à une coalition avec le CSSD, par exemple, ce qui semble exclu pour les radicaux.
Effectivement, il serait plutôt favorable à pas forcément une entrée dans une coalition, mais sans doute à une coopération au niveau gouvernemental.
Alors le quotidien autrichien Die Presse avait consacré un article le mois dernier sur la crise politique tchèque, hein, qui a duré, on l'a vu, plusieurs semaines, voire des mois, et a émis l'hypothèse, la possibilité de voir les communistes revenir au pouvoir, hein, c'est un ticket titré l'un de ces articles, dans le cadre d'une coalition avec les sociaux-démocrates. Est-ce que cela vous semble envisageable?
Alors techniquement ou sur le papier, effectivement, c'est tout à fait envisageable, d'autant plus que depuis quelques semaines, on parle de plus en plus de la montée de la gauche en général, en particulier du Parti communiste, à un point tel que, manifestement, non seulement la gauche aurait une majorité à la Chambre basse, mais aurait une majorité constitutionnelle, ce qui ne s'est pour l'instant jamais vu. Donc ça, sur le papier, effectivement, c'est envisageable. Ensuite, au niveau pratique, c'est plus compliqué d'abord parce que les sociaux-démocrates se sont interdits ce type de coopération avec les communistes depuis 1995. Et pour les communistes, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément envie d'entrer dans une coalition. C'est-à-dire que leur position d'opposition habituelle au sein de la scène politique leur est sans doute plus favorable.
La 13e foire du livre de Prague, Svět knihy, le monde du livre, s'est achevée dimanche au parc des expositions à Prague. La Roumanie et la littérature de la région de la mer Noire étaient à l'honneur cette année, de même que la bande dessinée. Parmi les invités, le critique belge Didier Passamonique, également éditeur, directeur de collection, commissaire d'exposition, spécialiste de la représentation de la Shoah et de la judéité dans la bande dessinée. Il nous explique comment il s'est intéressé au sujet.
Écoutez, je suis d'origine juive, donc déjà c'est un thème qui m'est cher. Et puis surtout, ce qui m'intéresse moi dans la bande dessinée d'une manière générale, c'est comment se construisent les stéréotypes, les concepts, les personnages, les histoires. Et ce que j'ai remarqué dans la représentation de la Shoah, c'est que c'était un thème difficile à représenter, surtout que la bande dessinée a été longtemps dédiée à la jeunesse, était destinée aux enfants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que la première représentation historique de la Shoah dans la bande dessinée, c'est une BD qui est encore disponible aujourd'hui chez Gallimard, qui s'appelle « La bête est morte » de Edmond-François Calvo. Et pour affronter la réalité de la Shoah, il a transformé ses personnages en animaux.
C'est comme Art Spiegelman avec Mauss, en fait.
Exactement. Hein. Et donc, en fait, Spiegelman s'en est souvenu pour Mauss. Et donc, un peu comme si on avait besoin du filtre de l'animalité pour représenter la réalité humaine. Donc, ce sont ce genre de questions-là qui m'ont interpellé. Et qui m'ont amené à essayer de voir comment ça avait été traité.
Pour élargir un peu, ici dans le cadre du Monde des Livres, vous participez à une table ronde consacrée à la bande dessinée historique, la bande dessinée biographique également. Justement, à l'heure actuelle, énormément de BD de ce type sortent en France, en Belgique. Alors on peut en citer plein, hein, j'allais dire La Guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, Svoboda pour le plus récent, puisque en plus il est ici au Monde des Livres, de Chris, hein, le scénariste, et de Jean-Denis Pendant. Qu'est-ce qui a changé justement dans le regard du public sur la BD pour que justement ce type de BD ait ce succès-là ?
Ce qui a changé, c'est la nature de la consommation de la BD elle-même. C'est-à-dire que Spiegelman est un peu responsable de ça. C'est que, à cause de ces sujets, qui sont des sujets d'une grande gravité, mais aussi d'un intérêt général, c'est-à-dire d'un intérêt qui va au-delà de la simple bande dessinée de distraction ou d'aventure. C'est-à-dire que Mauss de Spiegelman est probablement un des meilleurs livres sur la Shoah qui a pu être écrit, au même titre que Si c'est un homme de Primo Levi. Et ce statut nouveau pour la bande dessinée a ouvert la voie à la présence de la librairie, de la bande dessinée dans la librairie générale. Et cette présence-là a permis, on peut dire, entre guillemets, de coloniser toute une série de thèmes. Et en fait, beaucoup d'auteurs, y compris des historiens de renom, considèrent que la BD est un bon vecteur pour raconter l'histoire, parce qu'elle a deux avantages sur les essais historiques. Le premier, c'est que elle cristallise mieux, elle symbolise mieux les faits importants de l'histoire, ce qui fait qu'on retient mieux, on l'assimile mieux qu'un essai de 454 pages, par exemple. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on la reprend plus souvent en main.
Est-ce que justement aussi cet engouement et des auteurs et du public pour la BD historique, est-ce que ce serait pas aussi parce que justement le XXe siècle a été traumatisant à bien des égards et justement on a besoin de comprendre et autrement ?
Bon, c'est vrai que ceux qui oublient l'histoire, comme dit l'adage, sont condamnés à la revivre. Mais c'est vrai aussi que les grands chocs qu'on a pu avoir au XXe siècle et ceux qui nous attendent dans le futur et qui sont énormes, les chocs écologiques, les chocs économiques qu'on connaît aujourd'hui qui sont majeurs, qui interpellent vraiment la question de la définition et de la presque de la pertinence de l'humanité, font que la réflexion est beaucoup plus profonde. Et de la même façon qu'en psychanalyse, on va reconstituer l'histoire de l'individu pour mieux asseoir son propre développement. Cette demande d'histoire est de plus en plus importante aujourd'hui. Et l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'histoire littéraire, dans l'histoire conceptuelle. On est également dans une histoire de l'image.
Voilà, c'était donc Didier Passamonic qui était invité à la 13e Foire du Livre de Prague. Je vous rappelle qu'il est éditeur, directeur de collection et spécialiste de la représentation de la Shoah dans la bande dessinée. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dès samedi dans Culture sans frontières. Hockey sur glace et football figurent cette semaine au sommaire de la rubrique sportive que l'on retrouve comme chaque lundi. En hockey d'abord, le championnat du monde s'est refermé dimanche sur la victoire finale de la Russie. Défait en demi-finale par la Slovaquie dans le très attendu derby, la République tchèque a néanmoins terminé sur une bonne note en décrochant la médaille de bronze. Et puis en football, Petr Cech a été un des grands artisans de la victoire de Chelsea aux dépens du Bayern Munich samedi en finale de la Ligue des Champions. Le gardien tchèque a arrêté 3 pénaltys, dont 2 lors de la séance de tir au but, 1-1, 4 tables à 3. Tout cela, c'est tout de suite avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Comme l'année dernière, la République tchèque a donc finalement décroché la médaille de bronze au championnat du monde de hockey sur glace. Battue par la Slovaquie 3-1 en demi-finale samedi, les Tchèques se sont consolés dimanche à Helsinki en battant la Finlande 3-2 dans la petite finale. Pour la troisième année consécutive, la République tchèque, qui avait été sacrée en 2010, termine donc sur le podium du mondial, un mondial dont l'édition 2012 a finalement été remportée par l'intouchable Russie aux dépens de la Slovaquie, 6-2. Après la défaite, au goût toujours particulièrement amer concédée dans le derby contre la Slovaquie, les Tchèques sont donc parvenus à se remobiliser pour le match pour la troisième place et faire ainsi honneur à leur maillot, comme s'en félicitait leur entraîneur Alois Adamčík.
Je suis content après la grande déception de samedi. Les joueurs étaient abattus après la demi-finale, mais ils ont su trouver la motivation nécessaire pour donner un dernier coup de collier contre la Finlande. Ils ont joué avec leur cœur et montré qu'ils voulaient vraiment cette médaille de bronze pour eux-mêmes et pour tous leurs supporters. Ils ont fait un très bon match.
Cette satisfaction était également partagée par le capitaine tchèque Tomáš Plekanec. Médaille de bronze autour du cou, l'attaquant des Canadiens de Montréal retenait lui aussi d'abord la solidarité et la combativité de ses partenaires.
L'équipe avait envie de cette médaille, ça se sentait avant le match. Malgré la déception de la veille, c'était devenu un vrai objectif. Le fait de mener de 2 après le premier tiers-temps a aussi été un coup de booster. Cet avantage nous a donné de l'élan. Dans les vestiaires, on s'est dit qu'il ne fallait rien lâcher et tenir jusqu'au bout. Nous n'avons pas à rougir de notre performance, nous nous sommes accrochés et je pense que cette troisième place est méritée.
Aussi satisfaisante soit-elle, cette troisième place finale ne fait néanmoins pas complètement oublier la demi-finale perdue contre la Slovaquie. Souvent vainqueur du derby depuis la partition de la Tchécoslovaquie, les Tchèques, qui avaient créé une petite surprise en quart de finale en sortant la très costaud de Suède 4-3, ont cette fois dû s'avouer vaincus contre une Slovaquie entraînée par un Tchèque et qui avait frappé un grand coup au tour précédent en battant le Canada sur le même score de 4-3. Comme l'assure l'attaquant Jiří Novotný, malgré le bilan largement positif de la République tchèque dans l'histoire des confrontations tchécoslovaques, la représentace n'a souffert samedi d'aucun complexe de supériorité contre le voisin slovaque. Pour Jiří Novotný, les raisons de la défaite se trouvaient ailleurs.
Nous avons abordé ce match avec beaucoup de respect pour notre adversaire, mais nous n'avons pas suffisamment bien joué dans le premier tiers-temps pour espérer mieux et nous nous sommes retrouvés menés au score. Ce but d'avance était le scénario idéal pour les Slovaques. Malgré ça, nous sommes parvenus à égaliser dans le deuxième tiers et avons eu beaucoup d'autres occasions de marquer et de prendre l'avantage. Mais nous n'avons pas concrétisé et sans but, il est difficile de gagner. Malheureusement, dès l'entame du troisième tiers-temps, nous avons de nouveau encaissé, en plus sur une supériorité numérique. Et le troisième but slovaque, quelques minutes plus tard, nous a mis un gros coup au moral. Il restait alors une quinzaine de minutes pour tenter de recoller au score, mais il faut avouer que les Slovaques ont alors très bien joué le coup pour défendre leur avantage.
Souvent décevante tout au long de l'interminable série de 7 matchs de groupe sans réel enjeu du premier tour, surprenante et séduisante contre la Suède en quart de finale, puis moyenne contre la Slovaquie en demi, la République tchèque doit donc se contenter de cette médaille de bronze. Une médaille qui n'a pas l'éclat de l'or, ni même la valeur de l'argent et d'une participation à la finale, mais dont l'obtention constitue une conclusion somme toute logique à un parcours certes honorable, mais néanmoins insuffisant dans l'ensemble pour espérer beaucoup mieux. On passe au football. Petr Čech est devenu le 4e joueur tchèque de l'histoire à remporter la Ligue des Champions. Le gardien tchèque qui a arrêté un pénalty d'Arjen Robben pendant la prolongation avant de repousser 2 tirs au but a été l'un des héros de la finale à l'issue de laquelle samedi soir à Munich, Chelsea a battu le Bayern 1-0 et 4 tirs au but à 3. Avant Petr Čech, seul Vladimir Schmitzer et Milan Baroš avec Liverpool en 2005 et Marek Jankulovski avec le Milan AC en 2007 avaient soulevé la coupe aux grandes oreilles, le trophée qui récompense le vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions. compétitions européennes de clubs. Au vu du scénario du match, de l'écrasante domination bavaroise, rares étaient pourtant ceux qui croyaient encore dans les chances de Chelsea lorsque Thomas Müller a ouvert le score et délivré l'Allianz Arena d'une tête piquée à la 83e minute. Mais c'était alors sans compter sur l'énorme volonté anglaise, comme l'a expliqué Petr Čech à l'issue du match.
Nous n'avons pas encaissé au meilleur moment, c'est sûr. Mais nous avions toujours 8 minutes plus le temps additionnel devant nous pour égaliser. Il ne faut pas oublier qu'à 10 contre 11, nous étions aussi menés 2-0 à Barcelone. Et nous étions quand même parvenus à revenir dans la partie et à nous qualifier. On savait qu'en y croyant jusqu'au bout, tout n'était pas encore perdu. Et lorsque nous avons égalisé, nous nous sommes dit que nous avions encore toutes nos chances.
Cette inébranlable foi en une victoire qui ressemble fort à un miracle, le gardien tchèque l'a gonflé à travers ses nombreux arrêts, notamment durant la première prolongation et ce face-à-face avec Arjen Robben qui restera certainement comme le tournant de cette finale.
Après avoir arrêté le pénalty de Robben, je me suis dit que nous ne pouvions pas perdre aujourd'hui et que d'une façon ou d'une autre, nous allions aller au bout. J'ai arrêté 3 des 6 pénaltys tirés aujourd'hui et je suis parti du bon côté sur chacun des 6 pénaltys. Cela m'a permis de garder confiance pendant la séance de tir au but. Même si j'ai encaissé les 3 premiers, j'ai gardé confiance, je savais que j'allais en stopper au moins un.
Et finalement, Petr Čech a fait mieux encore puisqu'il a repoussé les 2 derniers tirs au but allemands, dont le 5e, décisif de Bastian Schweinsteiger, détourné du bout des doigts sur son poteau.
Il a attendu jusqu'au dernier moment de voir de quel côté j'allais partir. Moi, je n'ai pas bougé et j'ai choisi le bon côté. J'ai eu de la chance que le ballon ne soit pas rentré après avoir touché le poteau et qu'il ne rebondisse pas sur moi.
Petr Čech, ayant fait sa part de travail, ne restait plus alors à l'autre grand héros de la soirée, Didier Drogba, auteur de l'égalisation et dernier tireur, qu'a transformé la balle de match de Chelsea et ainsi offrir au club londonien la première Ligue des champions de son histoire. Une victoire qui fera partiellement oublier à Petr Čech la finale malheureuse de Moscou en 2008, où les Blues s'étaient inclinés contre Manchester United, là aussi à l'issue de la séance des tirs au but et d'un score de parité 1-0 au bout des 120 minutes de jeu. Une victoire qui va aussi lui permettre de se plonger avec encore plus d'envie et une nouvelle motivation dans la préparation de la phase finale de l'Euro 2012. Une préparation pour le dernier grand rendez-vous de la saison que ses partenaires de l'équipe nationale tchèque ont entamé dimanche par un stage en Autriche.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous les retrouvez sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, et ce, sous forme d'articles, en podcast, mais également en streaming. Évidemment, tous les contacts, c'est également sur notre site. Si vous avez des questions à nous poser, nous les reflèterons dans notre rubrique du courrier des auditeurs. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.